Oui, la guerre entre l'antagoniste et le rival. Entre les antagonistes et les rivaux. Bon, alors revenons à la première étape. Oui, ce que je veux expliquer, c'est que j'ai envie de l'expérience dont nous parlons. C'est que véhicule la notion de création, de la terre créature, l'être de mon être, l'être de mon. Eh bien, il n'y a que deux lignes de dégagement possibles dans l'histoire. Ou celle qui se nomme Nimrod, ou celle qui se nomme Abraham, l'autre étant la caricature d'Abraham. Vous savez ? Or, voilà ce que les textes nous disent à ce sujet. À partir de la même expérience de départ, il y a deux réactions radicalement différentes. Abraham et Nimrod. Quelle est leur expérience de départ ? Insatisfaction quant à l'état du monde. Tant Nimrod qu'Abraham sont bien insatisfaits de l'état du monde. Nous retrouvons ça au niveau de la famille. Le monde est détraqué. Comme disait notre maître M. Bordin, il met des cassettes. Et il faut venir avec lucidité, faisait le début de la foi. Biblique. Prendre conscience que nous sommes dans un monde détraqué. Comme si le chaos originel n'est pas encore évacué complètement. Il y a des traces de chaos. Il le disait de cette manière, il y a de la casse. Le soleil de maîtresse. Je crois que c'est le sentiment spirituel le plus profond, le plus sain, saïenté, que l'enfant qui ouvre les yeux au monde a. Qu'est-ce que c'est que ce nom de fratrie, vous suivez ? Et il en veut à ses parents, erreur de responsabilité. Il croit que c'est à ses parents qu'il en veut. Vous vous demandez dans quel monde m'as-tu mis ? Hein ? Narod. C'est Nimrod qui va apparaître là. Et alors, la réaction de Nimrod, c'est qu'il en veut au Créateur. Il se révolte contre le Créateur. Et vous savez que ça veut dire Nimrod en hébreu, l'homme de la révolte. Mère, c'est la révolte. Je ne sais pas si le français a pris son slogan de révolte de là, mais c'est pas joli en français, vous voyez ce que je veux dire. Et il comprend le français. Et la réaction de Nimrod. On va reprocher au Créateur l'état du monde. Okay. Et subrepticement va apparaître une métaphysique. Après tout, zut, c'est moi l'être. Et qu'est-ce que vient de Nimrod ? Enfin, j'ai un peu déplacé le slogan, mais qu'est-ce que vient de Nimrod ? Le projet de puissance et de jouissance. Et oui, pourquoi ? De cette réaction d'insatisfaction de l'état du monde va apparaître une position athée militante. Et Nimrod n'a qu'un seul souci, c'est de détruire Abraham. Abraham, c'est le gêneur, parce que la réaction d'Abraham est tout à fait opposée, à partir de la même sagacité existentielle, d'avoir su diagnostiquer que le monde est détraqué, et qu'il est insatisfaisant. Et la réaction d'Abraham, c'est de se mettre au service du projet du Créateur pour réaliser le tikkun, la restauration de l'état du monde selon le projet du Créateur. Et vous voyez pourquoi, à chaque fois qu'une civilisation apparaît, sur le type Nimrod, avec qui, à qui elle en veut ? Au Créateur. À qui elle s'en prend ? Aux Juifs. Vous avez remarqué ça ? Chaque fois que vous avez une société athée dans ce sens-là, eh bien, cette métaphysique sous-jacente à la culture considérée, en politique, se dégage dans l'antisémitisme. C'est très frappant dans le temps contemporain, vous avez eu le projet nazi et le projet soviétique, qui est la suite, d'ailleurs. Pour la première fois dans l'Occident, païen, apparaît une civilisation athée, militante, nimrodique, si j'ose dire. Nietzsche est contemporain de tout ça. Je vais parler de Nietzsche aujourd'hui, mais vous voyez comment il est là, comme une sorte de Nimrod, très 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 sagace, très haram. Et il a très bien compris, je ne vais pas vous donner la citation de mémoire, mais référez-vous à son œuvre, il a très bien compris dans ce problème. Christianisme et judaïsme sont radicalement différents. Et que la plus grande injustice de l'histoire a été d'imputer au judaïsme ce que le christianisme dit. Vous avez lu ce texte ? En particulier dans Ainsi parlait Avodah Zarathoustra. Et Et lorsqu'apparaît cette société du projet prométhéen, vous voyez, de Nimrod, alors effectivement, le seul souci au niveau historique, c'est d'annuler les descendants d'Abraham, je ne peux pas me connaître. Parce qu'Abraham va gêner. Il est obstacle au projet de puissance qui est un projet de jouissance. C'est pas association que je vous ai cité Nietzsche, mais il est là dans l'histoire au moment où il devait être. C'est un Nietzsche qui probablement aurait pu se réconcilier avec Abraham. Je veux dire, ce Nietzsche est un Nimrod qui aurait pu se réconcilier avec Abraham. On le sent à la lecture de ce qu'il dit. Entre-temps, il est devenu fou, il n'a pas eu. C'est une grande folie, mais il n'a pas eu. Et je pense que, parce que surtout l'Abraham qui l'a reconnu, qui l'a rencontré, n'était pas l'Abraham hébreu, n'était pas l'Abraham juif. Il a rencontré un Abraham chrétien, il n'en est pas sorti. La réaction d'Abraham, donc, c'est de fonder la civilisation de la créature. De la créature qui, se connaissant comme telle, se met, et de façon militante, et non pas passive, comme vous l'avez dit, au service du projet du créateur, au service d'un tikkun, d'une restauration du projet authentique dans le monde qui est encore en shkiratakun, qui est encore en brisure de vase. Est-ce que c'est clair? Vous voyez comment l'émotion s'organise. Mais je reviens, pour terminer cette analyse, qui est très importante à mon sens, n'imputez pas à Abraham, découvrant son créateur, une conduite de philosophie. Il effectue une conduite de piété. Je me connais comme créature, c'est-à-dire comme être selon l'être. Par là même, je me suis un peu souvent philosophique à la manière de Descartes. Je connais premièrement mon créateur. Me connaissant comme créature, mais premièrement mon cœur. C'est ce que dit le Midrash. Abraham, Hikir et Boro. Abraham a reconnu son créateur. Pas par un raisonnement philosophique, en se connaissant comme créature. Et ça, j'incite chaque année que je parle de cela. Parce que j'ai un peu l'expérience de faire des Torahs, afin de vous enseigner, non, comment dire, catéchisme, des Torahs. Et nous, on vous présente un Abraham raisonnant, faisant un raisonnement à la Voltaire. Oui, l'incongruité, l'anachronisme, c'est le mauvais goût. Okay, on nous parle d'Abraham comme un professeur de philosophie faisant un raisonnement de catéchisme. Vous voyez Abraham faisant la philosophie. Le Dieu d'Abraham va s'adresser à Abraham parce qu'Abraham est Abraham. Le Dieu de Voltaire ne s'adresse pas à Voltaire parce que Voltaire est Voltaire. C'est une différence radicale. Et d'Abraham viendra la prophétie et la prière. Nous aurons étudié un verset important de l'histoire d'Abraham. Donc ces deux notions, prophétie et prière, sont mises dans le même verset pour la première fois. Hacher et Chetaïf qui navigue, ou Véhou, Palel, Parader. Et il priera pour toi parce qu'il est prophète. Quel rapport? C'est en plein notre sujet. Le lien de cette circulation d'être qui descend par la prophétie et qui remonte dans la prière. Enfin, qui monte dans la prière mais descend par la bénédiction. Bon, enfin, on verra tout ça demain ou après-demain. Le lien entre l'aventure de l'être selon l'être, et l'aventure kabbaliste étymologiquement, et la prière et la prophétie. Et je vais simplement vous rappeler comment le Midrash éclaire ce que je viens de dire d'Abraham. Comment il effectue sa vertu de créature? Par la vertu de l'hospitalité. Et voilà ce que le Midrash raconte, comment Abraham a commencé à témoigner de son Dieu, si vous voulez, en invitant les passants dans sa tente, à sa table. Et puis, après le repas, il leur disait, et maintenant nous allons remercier celui qui nous a donné à manger. Regardez comme les choses sont simples. Celui qui a entretenu notre être recevant l'être, par l'expérience de la nourriture. Et vous découvrez tout de suite que toutes les conduites des rites religieux ont commencé par les conduites de la nourriture. À propos de ce qu'on pourrait appeler en termes, ça me rappelle Mademoiselle Tavancier et le Père Louis, de manducation. Ça veut dire se nourrir. Et alors les invités, les hôtes d'Abraham, avaient tendance à remercier Abraham. Et c'est là qu'ils commençaient à leur donner la première leçon de Talmud Torah. Non, il y a un créateur qui nous fait être. C'est lui qu'il faut remercier, pas moi, Abraham, qui ne suis que un véhicule de transmission, une courroie de transmission. Vous avez compris le problème. Nous sommes, d'une certaine manière, invités chez un baal havaï, chez un maître de maison, qui nous nourrit d'être. Alors, vous voyez pourquoi le Birkat Hamazon sera la conduite rituelle première. Vous savez que pour la halakha, La chova du Birchat Hamazon est plus importante que la chova de la tfila de la synagogue elle-même. Vous savez, le rite de, comment dire ça en français, les actions de grâce après le repas, c'est l'édition dure la fête. C'est dur à la fête. Que ce rite est plus important que la conduite de prière à la synagogue même, parce que c'est relié à l'objet de la prière, la nourriture. Et dans ce sens de nourriture, il n'y a pas que les aliments de nutrition, on dit ça les nutriments, tout ce qui fait que ma conscience est tout ce qui est Hana'a du monde, c'est-à-dire, je ne vais pas employer le terme de Hana'a, ça veut dire d'y tromper, tout ce qui est, mon éducation du monde. Vous avez compris l'idée. Si ma conscience ne se nourrit pas d'être, à travers tout ce qui me donne les horos, que ce soit les Hainaïm, enfin tous mes orifices de réception du monde, l'essence, elle tombe en syncope, elle disparaît. Elle n'est plus nourrie d'être, elle disparaît. En tout cas, elle disparaît de l'aventure de ce monde. Et donc, le rite de Birkat Hamazon est relié directement à un acte de Kabbalah, dans le sens strict de réception d'être. Alors, pour un peu faire le cycle de cela, c'est que, ici il y a une formule très importante, se connaissant comme créature, Abraham, premièrement, connaît son créateur. Voilà la définition de la foi d'Abraham. Et c'est là que ça commence. C'est pas simple, cette dialectique de réception d'être. Nous allons voir comment elle s'exprime à travers toute la dialectique des anges en avant du monde d'Israël. Juste au moment où Moïse vient de révéler le manque d'emploi, à Torah. Et je ne sais plus ce que je voulais dire pour terminer la phrase, mais enfin vous avez compris l'idée. Se connaissant comme créature, Abraham connaît son créateur. Voilà ce que je veux dire. C'est que cette expérience-là est à l'échelle de l'universel de façon absolue. Ça ne passe par aucun catéchisme de type école intellectuelle. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Bon. J'avais, je crois, une question. Quelqu'un avait une question? C'est-à-dire, c'est Nimrod. Ésaü reprend la conduite du chasseur, comme Nimrod, le grand chasseur devant l'Éternel. Et je veux dire, enfin, très rapidement, je peux passer à ça que vous pensez. Celui qui renonce à la bénédiction d'Abraham, et c'est le cas d'Ésaü, dans la descendance d'Abraham, Nimrod revient sous forme d'Ésaü. Celui qui renonce à cette entreprise de tikkun, de restauration du projet du Créateur, qui se renferme dans un projet de puissance et de jouissance, le chasseur, mais celui-là va finalement être tombé dans la désespérance, la conscience tragique, d'avoir lâché la proie pour l'ombre. Un chasseur se trompant de celui-là. Et lorsque, voulant se satisfaire de la jouissance, il s'aperçoit que la jouissance est insatisfaisante, alors apparaît la réaction de la conscience tragique. C'est-à-dire, j'ai renoncé à la vie de l'esprit pour la vie du corps. Mais la vie du corps, disait Madame, la chair est triste et je lis tous les livres. C'est lui qui dit ça. Baudelaire ? Bon, c'était des amis. oui, Baudelaire. Vous voyez, c'est l'espèce de désespérance absolue. Parce qu'on a lâché la croix pour l'ombre. Dans cette recherche de l'être, on a voulu se satisfaire du Kéli, et on a renoncé au haut. Mais le Kéli lui-même, on s'aperçoit qu'il n'y a rien dedans. J'ai lu un peu cela dans un des derniers, peut-être elle a écrit quelque chose après, roman de Simone de Beauvoir, qui au terme d'une vie d'expérience existentialiste, fait un bilan. J'ai été floué à la vie.
Oui.
Oui, c'est le cri d'angoisse des aïeux. Sa'aka gedola umara. C'est clair. Et il a renoncé à l'essentiel pour se rabattre sur la jouissance et puis sa jouissance le mène à la désespérance.
C'est d'ailleurs une controverse, puisque c'est ce que je vois dans son dernier livre, Cérémonie des adieux.
Comment?
Ça vient grand-père, c'est la fille d'Amélie de Simone de Beauvoir, dans lequel elle fait une sorte de critique à l'égard de deux personnages qui auraient eu une grande influence auprès de Sartre. Parlait elle était une théâtrice, Pierre et Victor. Et alors,
une compatriote du Varennes.
Qui c'est elle? Comment s'appelle?
Et d'abord, un peu rochi, justement, à la portée de Sartre vers les pensées un peu religieuses, qui ne serait pas l'athéisme fondamental de Sartre, qu'elle dit représente.
Absolument. Et il y avait aussi un disciple de Sartre, qui est aussi juif, qui s'appelait. C'est ça, celui qui a fait les derniers grandes interviews dans
le Observatoire. C'est le même.
Ah oui. Oui, effectivement, on a senti cela à la fin de sa vie. C'est énorme d'ailleurs. C'est toute une vie.
Si on lit les mots à travers les lignes, moi j'ai fermé le livre des mots en disant ça.
Oui, vous l'avez lu en filigrane. Mais c'est quand même énorme. Toute une vie où il allait dans le sens de Nimrod, et à la fin il dit non, attention, je me suis trompé. Mais en attendant, il est vu du nombre de consciences qu'il a. Mis sur de fausses pistes, et en particulier les consciences juives. Et d'ailleurs, il y avait toute une génération d'intellectuels israéliens qui a été complètement secouée par la mort de Sartre, enfin par ce qu'il a dit avant de mourir, et ils ont repris le chemin de la yeshiva. Après cela. Alors, en prenant acte qu'il y avait eu Maldon, Sartre a dit qu'il s'était trompé. Imaginez l'écroulement de toute une génération.
C'est une sorte de tchouva. C'est une sorte de tchouva. C'est une sorte de tchouva.
Oui, mais en attendant, comme dit le verset, Rabim, Halalim, Pila, il a fait des cadavres entre temps. Je me rappelle quand j'étais moi jeune étudiant tout après la guerre, les réflexions sur la question juive, qu'est-ce que ça a mis comme des quantités d'Albert Memmi sur des fausses pistes. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, à la mort de Sartre, toute l'œuvre de Memmi a disparu. Parce que le fondement avait disparu. Sartre, mon disant judéo arabe, c'est là de Sartre. Bon, c'est bon, c'est lui. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a une autre question? Parce que je vois que nous approchons de l'heure. Donc je crois qu'on va se satisfaire pour ce matin de cette introduction, c'est que je résume les propositions, si vous voulez. En fin de compte, nous sommes arrivés à la définition de Kabbalah comme science de l'être, mais dans le sens science de la réception de l'être. Et puis d'autre part, l'expérience d'Abraham, se connaissant comme créature, et connaissant par là-même son créateur. Et c'est important, c'est une expérience de l'ordre de la vertu et qui est universelle, et non pas du tout une expérience de l'ordre des comportements intellectuels.